Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La phrase d'Emmanuel Wargon qui a regretté vendredi que la maison individuelle soit l'alpha et la oméga des Français. Elle a dit le modèle du pavillon avec jardin n'est plus soutenable. Qu'en pensez-vous ? Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal. Eh ben, qu'est-ce que j'en pense ? C'est d'une connerie abyssale.
Ah bon, bah écoutez, ça le mérite d'être nuancé. Amandine, le rappel des titres.
Et à la une, la flambée des prix du carburant qui se poursuit, plus 2 centimes le litre encore en moyenne la semaine dernière. Ce matin sur RTL, Michel-Édouard Leclerc annonce le carburant à prix coûtant dans ses centres et ce jusqu'à la fin du mois. Il appelle le gouvernement à baisser ou à bloquer les taxes. Jean Castex est à Rome, rencontre avec le pape François, une rencontre prévue de longue date mais qui intervient dans un contexte particulier, hein, 2 semaines seulement après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Et puis dans moins d'une demi-heure, le début du procès dit des sondages de l'Élysée, Claude Guéant, Patrick Buisson et 3 autres anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy comparaissent pour détournement de fonds publics et favoritisme. L'ancien président, protégé par le statut pénal du chef de l'État, n'est pas poursuivi. Il est cité comme témoin mais ne viendra pas au tribunal. Et puis notre météo avec vous, Peggy Broche.
Attends. Agréable aujourd'hui.
Je croyais qu'il allait faire 25 degrés.
Mais non, mais attends, calmez-vous, c'est demain.
Attendez, ça arrive.
Aujourd'hui, c'est pas terrible au Nord-Ouest.
J'ai pas commencé en plus, Pascal. Exactement, Amandine. Mais c'est pas terrible sur le Nord-Ouest. Pourquoi ? Parce qu'on a une perturbation pluvieuse qui concerne essentiellement la Bretagne et la Normandie avec des pluies plus soutenues sur le Finistère. Et puis à l'avant de cette perturbation, donc entre le Poitou, le centre, la région parisienne cet après-midi jusqu'en Champagne-Ardenne, c'est vrai que le ciel est plutôt laiteux, plutôt voilé. En revanche, partout ailleurs, l'impression est belle, même s'il y a un léger voile du sud-ouest au nord-est, et puis c'est très beau dans le sud-est. Et en Corse, il peut, de manière très localisée, rester quelques grisailles encore tenaces sur, du côté de Perpignan, Strasbourg ou encore vers le Val-de-Saône. Côté température, on y vient. On est très souvent, c'est vrai, au-dessus des normales. Petite réserve tout de même du côté de Strasbourg et Dijon, par exemple, 14 degrés, donc là c'est juste, mais ailleurs, 17 à Lille, 18 à Besançon, 19 à Paris et Brest, 22 à Bourges, Clermont-Ferrand, Nîmes, Toulon, 23 à Toulouse et 25 degrés à Bordeaux et Biarritz, soit 5 degrés au-dessus des normales pour aujourd'hui.
C'est pas mal, et demain ce sera encore mieux, on en profite.
Exactement, oui, ce sera une belle journée sous des températures très douces pour la saison, on sera souvent 4 à 8 degrés au-dessus des normales, 8 degrés de plus par exemple pour Bourges, on attend 25 degrés demain après-midi, Biarritz, on attend 28 degrés. La normale, normalement, c'est 20. Si.
Là, c'est des records.
On n'est pas encore sur des records, mais en tout cas, on est sur des températures très, très élevées. C'est vrai pour la saison. 20 degrés à Brest, ainsi qu'à Nancy, 22 à Reims et Marseille, 23 à Paris.
20 degrés à Brest, c'est plus chaud que l'été.
25 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux et Tarbes. Et donc, un vrai pic de douceur, c'est vrai. Puis côté ciel, bah pareil, ce sera une belle journée avec la perturbation de la veille qui va s'évacuer sur les frontières du nord-est. Le matin, il restera quelques gouttes, mais ailleurs, globalement, les nuages au nord vont se dissiper dans la journée. On aura du beau soleil, sauf sur le golfe du Lion où ça restera nuageux avec de faibles pluies toute la journée.
Merci Peggy.
Merci Peggy, merci Amandine et je salue bien sûr les Brestois.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Et Madame Wargon a ajouté, ce modèle d'urbanisation qui dépend de la voiture pour les relier n'est plus en phase avec la réalité. C'est un non-sens écologique, économique et social. Évidemment, ça fait réagir. Je rappelle qu'elle est ministre du Logement. Cédric.
Oui, alors, c'est ce que je disais dès le départ. Je parle pas... Enfin, évidemment, de Madame le ministre, de la ministre, hein, je parle de la proposition qui est une connerie abyssale. Je vois pas en quoi.
C'est son constat plus qu'une proposition d'ailleurs, parce qu'elle propose pas de choses alternatives.
En fait, elle propose rien d'alternatif, ça c'est sûr. Alors en fait, je pense qu'en réalité, Madame Wargon, elle a dû vouloir faire une espèce de proposition électoraliste écologique et elle s'est plantée au fait. Tout simplement. C'est-à-dire que dans son idée à elle, finalement, on arrête de construire des pavillons, on construit des immeubles, il n'y a pas de problème, donc on déforeste. Donc construire des immeubles, c'est du béton, donc ça demande beaucoup d'eau, donc ça demande des parkings. Donc c'est très, très écologique, hein, tout ça. Alors moi, je vais lui donner quelques conseils, parce que je suis dans le bâtiment quand même. Si déjà tous les bâtiments désaffectés qui appartiennent à l'État, on les rénovait, on créerait de l'emploi, on lutterait contre la pollution visuelle, on isolerait ces bâtiments, on lutterait contre le réchauffement. Donc, vous voyez, il y a plein d'idées comme ça. Et après, je veux dire une phrase comme ça, quand on pense que pour beaucoup, c'est l'aboutissement d'une vie d'avoir sa maison, Pardon, mais c'est un peu maladroit quand même. Et puis, construire des immeubles, dire que c'est né il y a 70 ans, etc., on voit ce que ça a donné de construire des immeubles. Hein. Ça a ghettoisé les gens, ça a ghettoisé des populations, et voilà ce que ça a donné. En plus, un pavillon d'avoir son jardin, encore une fois, c'est très, très positif pour l'écologie, puisque ça permet de mettre des plantes, de mettre un potager, de planter un arbre. Voilà, c'est ça la réalité de l'écologie. Au contraire, les petits pavillons, c'est très bien finalement. Et puis on est quand même, on se sent plus libre d'être chez soi plutôt que d'être enfermé dans une cage à lapins là entre deux étages. Enfin, un moment.
Tous les appartements ne sont pas non plus des cages à lapins. Faut pas exagérer.
Oui,
il y a des appartements.
Qui sont
agréables d'ailleurs,
oui,
même qui sont pas forcément immenses. Mais t'as pas le sentiment d'être dans une cage à lapins.
Oui, mais c'est le sentiment que ça donne, parce que moi, j'ai habité hein, dans un immeuble, hein, quand j'étais plus jeune avec mes parents, on était une famille nombreuse. En fait, tu as cette impression d'enfermement. Non. Je dis pas que tu es malheureux, attention, parce que nous, on avait un T6, ils appellent ça, donc c'était un grand appartement.
Ah oui, un T6, mais, c'est grand.
Non, mais justement, mais plus l'appartement est grand, théoriquement, plus on y met du monde. Hein. La preuve, nous, on était 7 enfants. Hein. Plus de Zayus, ça faisait 9 dans un T6. Donc, en réalité, t'as ce sentiment d'enfermement parce qu'à un moment, bah, tu peux pas aller, t'as pas de balcon, t'as pas de jardin. Tu vois ce que je veux dire.
Et tu peux
pas
sortir, parfois, t'as un jardin dans les immeubles, un jardin collectif.
Oui, un jardin.
Bon, on marque une pause. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que Madame Wargon, mais elle n'est pas le seul. Elle incarne, j'allais dire, le monde des bobos, mais je veux pas être désagréable avec les bobos. C'est des personnalités parfois qui sont déconnectées de la vie réelle, des élites surdiplômées, incapables d'empathie avec monsieur ou madame tout le monde. Et c'est vrai que je voyais le CV de Madame Wargon. Elle a fait HEC, Sciences Po, l'ENA. Donc elle est au plus haut niveau de la République. Elle a un CV vraiment, c'est une femme très très brillante, hein, très intelligente, à n'en pas douter. Mais il me semble qu'elle est déconnectée, c'est ça la déconnexion, c'est de dire à des gens qui ont une maison individuelle, votre modèle n'est plus soutenable. D'abord, c'est pas agréable. Il y a une forme de morgue, de mépris de classe ou d'arrogance, mais ça peut être perçu comme cela. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors j'ai sous les yeux la déclaration de situation patrimoniale modificative d'Emmanuel Wargon, puisque tous les... c'est public, hein. Il y a juste à aller sur le site en l'occurrence, de site de la transparence. Alors c'est assez drôle parce qu'elle a une maison individuelle hein, dans sa déclaration de patrimoine qu'elle a achetée en 2006. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle l'a achetée à 1,3 million. C'est pas rien, 1,3 million. Mais la valeur en 2020, dit-elle, parce que ça date du 2020, du 6 juillet 2020, c'était d'1,5 million. Donc il y a le seul endroit en France, à Paris, où ça a augmenté simplement de 200 000 euros, c'est l'endroit où Madame Wargon a acheté sa maison. Parce que passer d'1,3 million à 1,5 million en 15 ans, en fait, ça n'arrive jamais à Paris. Généralement, ça double ou ça triple. Donc sa maison qu'elle a achetée à 1,3 million, elle doit valoir 2,3 millions ou 3 millions aujourd'hui. C'est ça la réalité. Bon,
agent immobilier.
Peu importe. Bah, non, mais écoutez, franchement, peu importe, mais c'est surtout une maison individuelle. Donc elle a une maison individuelle et elle dit que... Enfin bref, c'est un problème les hommes politiques aujourd'hui. Bonjour cher Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les propos de la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon vous font réagir au standard. Les maisons individuelles sont, je cite, un non-sens écologique, économique et social, mais encore.
Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable. Alors. Et nous mène à une impasse.
Qu'en pensez-vous? Cédric a été le premier à réagir.
Eh ben, qu'est-ce que j'en pense? C'est d'une connerie abyssale.
Alors, la ministre est-elle déconnectée de la réalité? Vous rêvez toujours d'avoir votre maison et un jardin? 3210, 3210.
On va parler avec Sandra, qui est agent immobilier. Bonjour, à Sucy-en-Brie.
Bonjour.
Bonjour Sandra. Alors, vous n'avez pas... c'est pas une bonne agent de la maison individuelle, Madame Wargon.
Écoutez, je suis vraiment désolée, mais c'est totalement faux. Enfin, moi, je suis sur le terrain et je peux vous dire que c'est... Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'ai une clientèle, enfin, je sais pas, c'est pas du tout péjoratif, mais j'ai une clientèle, justement, de bobos, justement, de gens parisiens qui cherchent vraiment à quitter Paris pour une maison individuelle. Donc, je sais pas de quoi elle parle. Peut-être, effectivement, qu'elle est complètement déconnectée. Enfin, je pense pas en vrai, mais en tout
bah,
cas.
Elle dit ce modèle d'urbanisation qui dépend de la voiture, c'est ça qu'elle veut dire, sans doute. C'est qu'une maison individuelle, c'est un peu à l'écart, donc il faut prendre la voiture pour aller emmener les enfants à l'école, j'imagine, ou des choses comme ça.
Alors, on peut habiter en banlieue, avoir une maison individuelle et faire les choses à pied aussi, emmener des enfants à l'école à pied, mais on peut aussi prendre la voiture. Il y a aussi des transports en commun pour les gens qui travaillent sur Paris. Aujourd'hui, on sait tous que le modèle a un petit peu changé. On fait de plus en plus de télétravail, etc. Donc, je suis désolée, mais la maison, le modèle pavillon avec un bout de jardin, avec un lopin de terre, c'est recherché. Moi, j'ai beaucoup plus de demandes que je n'ai d'offres. Et j'ai une clientèle parisienne de bobos qui, il y a encore 3-4 ans, ne serait pas venue vers le pavillon, si je puis dire. Donc, je ne peux pas...
Ça coûte combien une maison à Sucy ? À Sucy-en-Brie, c'est à combien, par exemple, de Paris, Sucy-en-Brie ?
Alors, c'est à 20 km.
20 km, c'est pas plus loin. Je pensais que c'était plus loin. Donc, une maison, par exemple, une belle maison comme Madame Vargon, elle a 250 mètres carrés. Ça vaut combien ? Ça doit valoir très cher, ça.
Je ne connais pas sa maison. Et puis, après, vous savez, une maison, une estimation, tout va dépendre de l'environnement, de tout ce qui est à côté, des transports en commun, des commodités, des commerces, etc. Mais voilà, on est autour de entre 4 000 et 5 500 du mètre carré, voilà. Après, tout dépend aussi du style de maison, parce que ce qui est très recherché, justement, moi je vais encore plus loin, c'est la meulière, c'est la maison en pierre, c'est aussi ça qui est recherché avec un bout de jardin. C'est pas que la maison années 70, mais la maison années 70, elle est recherchée, elle est refaite avec le goût du jour maintenant, avec les normes écologiques qu'on connaît, mais en tout cas, elle est recherchée, on ne peut pas entendre dire ça, c'est faux et c'est archi faux de dire que les gens ne cherchent pas ça.
Oui, bah, je pense que les gens cherchent ça. Ce qu'elle dit est différent. Elle dit que c'est un non-sens écologique, économique et social. C'est ce qu'elle dit.
Non, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que les gens recherchent. C'est pas. Voilà, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Eh bien, là, en revanche, vous revenez sur le thème de la déconnexion que je perçois, effectivement, parmi ceux qui nous gouvernent très souvent. Et je le répète, d'ailleurs, c'est intéressant, le profil d'Emmanuel Vargon, parce que c'est un produit de l'élite, Madame Vargon. Elle est extrêmement douée. Elle a fait les meilleures écoles de la République. Vraiment, elle a un parcours exceptionnel. HEC, Sciences Po, l'ENA, elle est à un très haut niveau. Mais elle dit quelque chose qui vient heurter la sensibilité française et qui marque effectivement qu'on n'a pas les mêmes préoccupations que les uns et les autres.
C'est dénigrer une certaine population aussi, excusez-moi.
Un côté, effectivement, mépris de classe là-dedans, mais bon. Ce que je perçois, mais après c'est de l'interprétation, donc il faut faire attention. Alors merci Sandra, je crois que vous devez aller travailler Sandra.
Oui c'est ça, c'est ça, je vais aller travailler, je vais faire visiter mes petites maisons années 70 justement.
Bon,
merci beaucoup en tout cas,
merci
et
Sandra.
Et bon courage à tous, au revoir.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors, nous allons quand même donner d'abord la parole à notre camarade.
Oui, vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au standard, hein, comme les principaux carburants qui ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière. Un chiffre officiel du ministère de la Transition écologique. Et vous l'avez peut-être entendu sur RTL ce matin, Michel-Édouard Leclerc veut mettre la pression sur le gouvernement pour agir sur les prix des carburants.
Nous avons été chatouillés par l'intervention de la ministre de l'Environnement qui, devant la flambée du prix des carburants, oubliant que c'est l'État qui avait les leviers avec le poids des taxes, nous avait invité à baisser nos prix. J'avais réagi en expliquant qu'on avait 1-2 centimes sous le pied et pas plus. Là, j'ai voulu le souligner, on vend sans marge jusqu'à la fin du mois. Et donc, si ça continue d'augmenter, la marge de manœuvre, elle n'est pas chez nous, elle est chez vous.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Et dites-nous, hein, combien vous coûte un plein en ce moment ? Devez-vous faire des économies ailleurs pour payer votre plein d'essence ou de diesel ? Cette colère peut-elle relancer le mouvement des Gilets jaunes ? 3210-3210.
Alors, on va quand même prendre un défenseur d'Emmanuel Vargon, parce que ça ne serait pas convenable autrement de ne pas entendre une autre son, j'allais dire, de cloche. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous dites que vous êtes d'accord avec Emmanuel Vargon. Pourquoi ?
Alors, il faut savoir que dans nos communes, quand on regarde les plans locaux d'urbanisme, ce qui fout le camp, c'est les terres agricoles, et elles ne sont pas grignotées par des routes ou des centres commerciaux. La première source de disparition des terres agricoles, ce sont les maisons individuelles. Donc ça, elle a raison sur le fond, les maisons individuelles grignotent du foncier. Alors c'est pas la peine de s'offusquer d'avoir Bolsonaro qui brûle le sang d'Amazonie pour nous brûler nos terres agricoles, les bétonner. Et puis c'est pas la peine de gueuler contre les glyphosates, parce qu'au bout de 3 ans, le glyphosate, on peut transformer une terre agricole en bio, alors qu'une fois qu'elle a reçu du béton et du bitume, vous n'en faites plus rien. Par contre, là où elle se trompe, c'est qu'aujourd'hui, si vous habitez loin de votre préfecture, vous pouvez prendre une bagnole électrique, donc c'est pas un souci de polluer en prenant une bagnole diesel si vous habitez loin de votre travail. Là où elle se trompe aussi, c'est qu'elle oublie, en écologie, on oublie le nombre. Voilà, le nombre, Pascal. Si on est dans les 10 prochaines années, la France va accueillir 6, 7, peut-être 15 millions de Français en plus. On s'engosse.
Ah non, mais c'est vrai. On ne va pas avoir 15 millions de Français en plus.
Mais bien sûr, faites les projections démographiques, l'accroissement de l'accroissement de la population,
pas à 15 millions,
l'immigration. Monsieur Pascal, il y a 10, au bout de votre prédécesseur, il a dit tous les 10 ans, on consomme un département français. Donc, dans les 10 ans qui arrivent, on va consommer un autre département français, essentiellement pour de la maison individuelle. Donc, il y a deux façons. Soit vous dites aux Français, on va augmenter la population et vous n'aurez plus droit à la maison individuelle parce qu'il faut préserver la biodiversité. Ou alors vous dites, faut-il qu'on soit demain 80 millions comme on nous annonce en France dans 10 ou 30 ans? Elle est là la question. L'écologie, si vous ne discutez pas démographie, vous avez un raisonnement faux, biaisé.
Voilà. Écoutez, dans un scénario central fondé sur les tendances démographiques récentes, la population de la France compterait 76 millions d'habitants au 1er janvier 2070.
Contre 66 millions
au 1er janvier 2013.
10 millions de plus, ça va faire un département à moins.
Non, c'est 4. Hein. Quoi, c'est 10, vous avez raison, mais c'est au 1er janvier 2070. C'est dans 50 ans.
Oui, mais monsieur, votre petit-fils, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il vive en Belgique avec 350 000 habitants au kilomètre carré ou qu'il reste en France avec 110 habitants au kilomètre carré? Est-ce que vous voulez qu'il vive en Hollande avec 500 habitants au kilomètre carré ou qu'il reste en France avec 110 habitants au kilomètre carré?
Les projections, aujourd'hui on est 67 millions. En 2030, on serait 70. En 2040, on serait 72. En 2050, 74. Et en 2060, si tout va bien, moi ça va être la décade où je vais partir, 2060.
Combien on était il y a 10 ans avant de consommer un hectare, un département de terre agricole? Ceux qui arrivent, c'est ça.
D'accord.
Dans 10 ans, on va consommer un département. Donc, et la principale consommation, c'est la maison individuelle. Donc limitons la population et tous les Français auront droit à la maison individuelle et on préservera la biodiversité. Sinon, vous allez gâcher la biodiversité. C'est tout.
Merci beaucoup. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'ailleurs des éléments contradictoires.
Oui, simplement, non, mais elle a raison, elle a tort parce qu'elle oublie la démographie.
Écoutez,
on peut lutter contre la démographie. On n'est pas obligé d'apprendre la population française.
Moi, je pense surtout qu'elle a tort parce que je pense qu'elle a tort parce qu'elle heurte une sensibilité. Elle fait pas de politique. Elle heurte une sensibilité française, forcément. Et puis, c'est ce que je disais à Martial Youth tout à l'heure. Tout est un non-sens écologique. Prendre sa voiture, c'est un non-sens.
Elle a raison.
Oui, mais moi, je veux bien qu'on arrête de vivre. Vivre, c'est un non-sens écologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Prendre un avion, c'est un non-sens écologique.
Pascal, je vous dis, est-ce que la France doit faire 75 millions d'habitants dans 10 ans ou dans 20 ans ou pas ? Elle l'est fait, et comme on est un pays de liberté, les gens auront des pavillons. Ils auront donc consommé du foncier.
Bon.
C'est tout.
Quand j'arrive le lundi, je retrouve mon ami Olivier. C'est vrai qu'on me parle beaucoup de vous le week-end avec avec des témoignages un peu contrastés, je dois vous dire, cher monsieur.
Ah, je ne fais pas l'unanimité.
Si, mais non, mais les gens s'interrogent sur personnalité qu'ils découvrent à l'antenne.
Et peut-être sur mon rôle dans l'émission, si c'est possible.
Ils ont des questions, en tout cas.
Oui, c'est sûr.
Et qu'ils me posent, naturellement.
Ah bon, quel type de questions, Pascal, je me permets.
Je ne peux pas ici les dire, mais
d'accord.
Bon, ce sont des questions, ils s'interrogent sur vous.
Je peux comprendre. Bon, on y va. Sur notre page Facebook et Twitter également, Dominique.
Mais une part de second degré, peut-être, faut-il le dire.
Ah oui, non mais bien sûr, totalement assumé, Pascal, il le faut. Hein.
Il le faut.
Dominique écrit, cette femme est déconnectée, vive ma maison, mon jardin et mes fleurs. Je vais vivre encore longtemps comme ça, à Otep. Nous dit, j'aimerais bien savoir quel type de logement elle détient. Et on termine avec Agnès, on se rend compte que les rêves des Français sont un non-sens pour beaucoup de politiques.
Vous nous aviez annoncé vendredi un week-end avec quelqu'un, je crois, de la maison d'RTL.
Exactement, de la rédaction.
Voilà, et alors évidemment, puisque vous nous en avez parlé, le public
vous êtes curieux quand même, hein,
et veut des informations. Est-ce que tout s'est bien passé?
Il s'avère que la personne n'est pas venue. Donc... Donc j'ai bu un verre tout seul, Pascal, écoutez. Non, c'est un concept.
Ce que vous nous dites, votre vie est terrible. Je pense qu'il faut, mettre une caméra sur monsieur Olivier.
Ah oui, ou en faire un sketch.
Bon, 13h27, la pause. On continue avec Emmanuel Wargon. Il y a d'autres sujets, hein, quand même. Par exemple, les toilettes unisexes. Ça, c'est pas mal dans un collège de Gironde. Non genré, comme on dit. Et puis, si vous voulez nous parler de l'essence, pourquoi pas. Si vous voulez nous parler politique, pourquoi pas aussi. Vous avez peut-être envie de nous parler des Républicains, de Michel Barnier. Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Je n'en sais rien. Appelez-nous. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, parlons ensemble des toilettes unisexes. Le système a été mis en place au collège Henri de Navarre à Coutras en Gironde.
Comme sujet.
Il n'y a plus d'un côté les filles, de l'autre les garçons. Les toilettes sont désormais totalement mixtes.
Au début, ça faisait un peu peur de voir des garçons dans les toilettes. Avec mes copines, on n'avait pas envie d'y aller. Mais on s'habitue, mais c'est surtout que l'année dernière, c'était pas mixte. Et du coup, ça change quand même.
Même, on a toujours notre intimité parce qu'on est séparés, c'est des cabines. Au final, on voit que les toilettes sont mieux entretenues, que c'est plus propre.
Alors, la séparation existe, hein, mais selon les classes d'âge, 6e, 5e, 4e, 3e, qu'en pensez-vous?
L'âge, c'est pas de l'idéologie. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être qu'effectivement, d'avoir une forme d'intimité, que les garçons soient d'un côté, les femmes de l'autre. Je parle pas pour les enfants, je parle pour les adultes. Peut-être qu'à ce moment-là, j'allais dire de cette pratique-là, c'est pas le bon mot sans doute, mais c'est pas mal peut-être de séparer hommes et femmes, non?
Ce qui vous énerve, ce sont les mots non genrés, j'ai l'impression surtout.
Non, c'est pas ça. Non. Je peux comprendre qu'il y ait une forme de délicatesse qui se met en place et que pourquoi pas les femmes préfèrent et les hommes aussi préfèrent peut-être dans ce moment-là ne pas partager. Les toilettes communes, peut-être.
C'est un
peut-être.
Très bon édito, en tout cas.
Olivier, on va en parler dans une seconde, mais Olivier, on termine avec Emmanuel Wargon. Et Olivier, alors évidemment, vous êtes artisan du BTP,
oui, bonjour,
donc ça ne vous arrange pas. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est bien qu'elle tienne l'étendard de l'écologie, hein, mais je veux dire par là, oui, ça ne tient pas la route, parce qu'en plus de ça, je voudrais répondre à l'intervenant précédent qui disait on bétonne. Moi, je suis en Bourgogne et il y a eu beaucoup d'acquisitions, mais sur du déjà bâti. Donc, il n'y a pas eu de création de pavillons. Donc, les gens sont plutôt demandeurs de vieilles longères et il me semblait quand même que depuis cette histoire du Covid, les gens fuyaient un peu quelque part les grandes villes. Donc, ça ne tient pas forcément vraiment. Enfin, j'arrive pas à comprendre sa façon de penser. Et de plus, si je puis dire, si on recentralise tout le monde, donc si on fait de l'immeuble, je ne sais pas, si on part sur une dizaine de familles, il y aura donc 10 maisons en moins. Donc, ça va encore limiter aussi le bâtiment. Donc, les artisans. Donc, là, après, on n'est plus sur l'écologie, on est sur l'économie. Donc,
mais parce que je pense aussi que Mme Wargon, elle est dans un rapport idéologique.
Bah, bien sûr.
Donc, c'est l'idéologie qui vient contrer le réel. Donc, voilà, on pourrait dire la même chose, je le répète, de la voiture. La voiture est un non-sens écologique, hein, sans doute.
À partir du moment où vous levez le matin, vous êtes, c'est un non-sens écologique à la limite. Hein.
Mais c'est ce que disait Martial Youw, vivre, c'est un non-sens écologique.
Oui, bah exactement.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un non-sens écologique. Donc, en même temps, il faut que les gens vivent, et vivent plutôt bien.
Oui, parce que cette pensée un peu unique, ça devient insupportable. Cette façon de diriger les gens sur une idée que l'on se fait d'eux-mêmes sans connaître comment ces gens la vivent, ça devient plus qu'énervant.
Bah écoutez, Olivier, oui, effectivement, ça peut. Il y a une forme en plus, je trouve, de morgue. En fait, ce qui me gêne toujours, c'est lorsque les élites disent comment on doit vivre, comment on doit déjeuner, à quelle heure on doit dîner, si on doit porter un masque, ce qu'on doit faire, etc., où on doit vivre, etc. Ça, je suis un peu. Cette pensée-là, intuitivement, instinctivement, elle me rebute un peu. J'attends pas d'un ministre qui me donne des leçons, en clair. Voilà. C'est-à-dire que tu as toujours ce sentiment que parfois, certains, pas tous, te donnent des leçons de vie. Et c'est, disons-le, pas agréable. Olivier ?
Oui, allô, oui. Je buvais vos paroles.
je n'irai pas jusque-là, mais bon. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage. Et puis on referme le chapitre Wargon momentanément.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Alors le carburant maintenant, vous avez peut-être entendu Michel-Édouard Leclerc ce matin parce qu'ils vendent l'essence à prix coûtant. Il faudrait que les taxes baissent pour baisser le prix du carburant. Bonjour Jacques.
Bonjour, allô. Vous m'entendez ?
Oui, Jacques, vous habitez Montauban.
Hein ?
Ah, je ne vous entends pas là Jacques. Vous êtes
oui,
avec nous ?
Vous m'entendez mieux ?
Ben, oui, je suis là. Donc vous habitez Montauban ?
Oui, tout à fait.
Bon. Eh bien, d'abord, je vous remercie de nous appeler. Vous dépensez combien d'essence ces jours derniers ?
Alors, voilà, j'ai une petite auto-école, deux véhicules qui tournent. Un qui tourne quasi en permanence, 8 à 9 heures par jour. Donc, j'avais pris une carte, félicité, totale jusque-là. J'étais sur une base de 500 euros jusqu'à l'année dernière, jusqu'au milieu d'année. Maintenant, j'ai une augmentation quasiment de 200 euros par mois.
Ah oui, c'est entre beaucoup, 200 euros par mois.
150, ah oui, parce que en fait, je n'atteignais pas le plafond quand j'ai pris cette carte, il y a un an, moins d'un an, et maintenant je le dépasse, et donc je suis obligé d'aller ailleurs, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'augmenter le plafond.
Mais pourquoi vous faites autant de kilomètres par mois ?
J'ai une auto-école.
Ah oui ?
J'ai une voiture qui fait 1000 kilomètres par semaine.
Oui.
Donc je saurais peut-être, mais bon, l'idée de Monsieur le Maire, et cette idée, je l'ai entendue ce matin à la télé de la ministre, alors c'est pas Madame Wargon, je la connaissais que de nom, qui a parlé sur la matinale. J'ai fait bon ce matin, parce que je me suis dit encore une stupidité. Monsieur Leclerc a raison. Pourquoi ne pas jouer sur la TIPP parce que on a pris une énorme augmentation, plutôt que de dire on va donner des chèques à des gens. Mais des chèques sur quelle mesure, sur quoi ?
Mais votre cas est un peu particulier parce que vous avez combien de voitures dans votre auto-école ?
Deux.
Deux voitures. Donc vous êtes en augmentation. Alors il y a le budget essence par mois de vos deux voitures. Quel est-il ?
Quasiment 150 euros. On est entre 600-650 euros par mois.
650 euros par voiture ?
Non, pour les deux. Pour les deux.
Pour les deux voitures. C'est-à-dire que vous faites en gros trois pleins.
Ça
fait 350, oui. Ça fait 300 ou 325 euros.
J'ai un plein, j'ai une voiture qui fait 5 pleins.
Qui fait combien ?
Diesel qui fait 5 pleins par 4 à 5 pleins par 5 par mois, 5
ouais.
pleins, puisque je fais 1000 km avec cette voiture par semaine à peu près.
D'accord. Et alors on va essayer de rationaliser ça si j'ose dire pour qu'on comprenne tous. Donc 5 pleins, le plein vous le faites à combien dans votre voiture ?
Alors, maintenant je suis à 60 euros.
60 euros. Bon. Et avant, vous étiez à combien quand vous faisiez un plein ?
50, 52, 55 euros, gros maximum.
D'accord. Donc, ça a augmenté de 15, 20%.
5 euros, ouais. Voilà.
15, 20%, à peu près.
Donc, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, un chèque. Mais un chèque basé sur quoi ? Il va, et les autres vont trouver ça injuste. Mais basé sur quoi ?
Mais vous, pardonnez-moi encore de vous couper, Jacques, mais vous, c'est des frais quand même. C'est pas la même chose que pour ce sont des frais professionnels.
Ce sont des frais professionnels, mais qu'on a plus difficilement et qu'on ne peut pas forcément répercuter sur les clients. J'ai pas augmenté mes forfaits, j'ai pas augmenté mes tarifs.
Ça, c'est entendu. Mais vous déduisez de la TVA sur l'essence ?
Oui, on déduit de la TVA.
Vous déduisez 20% ?
On déduit 20% de TVA.
C'est important de le dire également.
Mais nous,
vous payez pas le. Quand vous payez 60 euros, en fait, vous le payez que entre 45
et. Non, je paye entièrement.
Oui, mais vous le payez entièrement, mais vous récupérez de la TVA.
Je récupère de la TVA sur ce que je paye en TVA.
Ah oui, donc ça, c'est, voilà. Donc vous le payez pas à ce prix-là, quoi. C'est ça que je veux dire.
Un petit peu moins. C'est
un peu moins, 20% de moins.
Oui, oui.
C'est ça la TVA que vous récupérez.
Oui, mais on le paye sur le moment. Nous, on le paye directement. Non. C'est-à-dire que si la carte n'a plus assez, quand 500 euros était suffisant, ben souvent ma carte totale n'est plus passée. Ben je suis obligé de payer avec la carte bleue, voilà. Qui fait quand même une grosse augmentation.
Oui, non mais vous avez augmenté. Bon bah écoutez, c'est un cas concret, Jacques, qui a voilà.
Mais on est tous les professionnels dans le cas. Moi, ce que je trouve stupide, c'est et qui va encore, qui bien sûr, Monsieur le Maire, qui est un grand économiste, je le remercie, il a fait des études, il a comptabilisé que s'il baissait la TIPP, il perdrait plus de sous. okay, mmh, que de se dire, je vais verser un chèque peut-être à certains professionnels. La ministre Martin parlait des infirmières libérales. Je ne sais pas si nous, les auto-écoles ou les autres dans le transport, allons être concernés. C'est un non-sens, c'est encore un non-sens. Et comme a dit un autre auditeur pour d'autres sujets, une connerie, voilà, mmh, ça n'a pas de sens.
Eh bien, merci Jacques. Merci, effectivement, voilà, votre exemple est intéressant, même s'il est particulier, il est professionnel. On va marquer une pause. Je vais en profiter pour saluer un journaliste qui longtemps a travaillé à TF1, qui s'appelle Bernard Renault, et qui m'envoie ce petit texto. Il me dit, en 59, à Magny, en Vexin, les toilettes étaient mixtes au collège, en 59. Donc c'est pas nouveau. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro,
Laurent Tessier.
Il y a 25 ans, le 18 octobre 1996, notre téléphone passait à la numérotation à 10 chiffres. Ce soir, les Français compteront jusqu'à 10, annoncé le Figaro. Des moyens considérables sont mobilisés pour le basculement et l'arrivée des 01, 02, 03, 04, 05 et 06.
Au Centre National de Supervision de France Télécom, l'attention est perceptible. Ils sont tous devant leur console. Une dernière fois, ils vérifient que le secteur qui leur est attribué est prêt à recevoir le top des horloges. 23h, 0 minute, 0 seconde, la France bascule de 8 à 10 chiffres. Les 1325 centraux viennent de commuter 32 millions d'abonnés.
Il suffira d'ajouter les deux chiffres selon sa zone d'habitation et de même pour les téléphones mobiles, il suffira d'ajouter le 06 en tête. La rançon du progrès, disait François Fillon, à l'époque ministre délégué à la Poste et aux télécommunications.
C'était en quelle année ?
18 octobre 1996, il y a 25 ans.
C'est fou, hein ? Ça passe vite. Céline, bonjour Céline. Nous revenons
bonjour,
sur
Pascal.
Le carburant. Est-ce que vous le sentez à la pompe lorsque vous passez l'augmentation du carburant, Céline ?
Ben oui, je le sens. Alors, je pourrais pas quantifier effectivement précisément, mais en moyenne, j'étais à 130, 150 euros. Là, je suis un peu plus, mais je ne serais pas dire précisément.
130, 150 euros par mois ou
Par mois,
oui.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Voilà. Après, là, ce matin, précisément, je suis allée chez Leclerc, justement. Mmh. Effectivement, le prix était un peu moins cher que chez le concurrent.
Combien le prix du litre de super ?
Moi, moi, c'est du gasoil et je l'ai eu à 1,489 au lieu de 1,529 quelques kilomètres plus loin. Donc, ça fait 4 centimes d'économie.
Et vous faites le détour pour 4 centimes d'économie ?
Non, c'était sur ma route. En fait, le concurrent était plus avant sur ma route. Et donc, le second, comme je savais que le second était un Leclerc et que les prix risquaient d'être moins chers, je suis passée par Leclerc. Et pour la différence, en fait, j'ai fait le calcul à la sortie de la pompe. En fait, j'ai gagné 2 euros. Sur tout mon plein.
Bon, avec pour 2 euros, vous ne faites pas un détour quand même.
Non, ah non, j'aurais pas fait un détour. Ah non, non. Non, non. Mais voilà. Et ce que je voulais aussi pointer, c'est que je me mets à la place des petits salaires. Je pense à, par exemple, quelqu'un qui serait en recherche d'emploi et qui pourrait se voir proposer un emploi assez loin chez lui et qui, du coup, pourrait regarder à deux fois avant d'accepter ce poste. Et on en viendrait à dire, ah bah oui, mais voyez, quand il y a des postes à pourvoir, bah, les gens ne sont pas intéressés, les gens ne veulent pas bosser et les gens ne postulent pas. Je pense qu'effectivement, s'il y a des problèmes comme ça au niveau du tarif du gasoil, ça peut être rédhibitoire pour quelqu'un qui cherche un poste et qui serait au SMIC, par exemple, quoi. Parce que là, les chèques carburant qui vont aider les foyers les plus modestes, je doute bien que ça concerne les gens qui soient au SMIC. Donc effectivement, à la fin du mois, faut nourrir sa famille. Je pense que quelqu'un qui se voit proposer un poste où finalement il gagnera moins à cause du carburant à aller travailler qu'à rester chez lui avec les aides qu'on peut lui proposer. Malheureusement, comme il faut faire vivre le foyer, effectivement, le choix peut malheureusement être vite fait et pas forcément dans le sens où on pourrait l'imaginer. Quoi.
Alors, on rappelle qu'il y a 57% de fiscalité dans un litre de SP, par exemple, 95. Il y a une TVA à 16,4% et un TICPE à 32%. Ça, c'est la fiscalité. Bon, effectivement, on pourrait imaginer de baisser les taxes en France si on voulait baisser le prix du SP95, mais ce n'est pas l'ordre
c'est
ça, du jour.
C'est l'objectif d'Edouard Leclerc, c'est de montrer qu'effectivement, c'est l'État qui est un peu plus en compte là-dedans que les distributeurs. Et effectivement, moi j'ai pu le vérifier ce matin, finalement, il n'y a que 2 euros d'écart sur mon plein, alors qu'en fait, j'ai 4 centimes d'écart par rapport aux concurrents. Donc finalement, c'est bien l'État qui majore ses taxes et le problème vient de là.
Merci beaucoup Céline. Léon est là également. Léon est chauffeur. On va l'écouter après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le lien avec la page Facebook est assuré tous les jours par Monsieur Olivier.
Et oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal Henry écrit « Ça ne me donne même plus envie de prendre ma voiture ». Muriel nous dit « Les prix sont affolants, on perd un SMIC par an avec le carburant ». Et on termine avec Agnès, il va falloir une vraie révolte pour stopper cette folie des prix.
Vous n'avez pas de voiture peut-être, monsieur Olivier ?
Et si, Pascal. Savoie, j'ai une voiture.
En Savoie.
Voilà.
Elle est en Savoie.
Elle reste en Savoie. D'accord. J'ai trop peur de conduire à Paris.
Vous avez peur de beaucoup de choses, manifestement.
Oui.
Vous êtes un peu effrayé. Léon, bonjour, vous êtes chauffeur.
Oui, bonjour.
Alors évidemment, vous êtes chauffeur, donc c'est pas vous qui payez l'essence.
Non, mais par contre, je vois combien ça a augmenté en l'espace de quelques années. C'est assez important, c'est quand même. Sachant que les réservoirs que vous avez sur les poids lourds, ça peut aller jusqu'à 1000 litres. Hein, donc imaginez un petit peu ce que vous pouvez avoir comme petit ticket qui sort à la fin. Mais on parlait de quantifier un petit peu le montant de l'augmentation et ce que ça coûte aux Français. Mais moi, j'avais regardé, en 2017, quand Macron est arrivé, le diesel coûtait 1,2 à la pompe, quelque chose comme ça. Mmh. Et on va atteindre les 1,7 à l'heure actuelle. Donc ça va faire 50 centimes d'augmentation. Si vous regardez, moi par exemple, j'ai une petite cacahuète, j'ai une C3 qui a 10 ans. Le réservoir, il est de 50 litres. Bah, ça fait... c'est 50 centimes, ça fait 25 euros en fait sur le plein en l'espace de 4 ans. Si vous regardez, j'habite à la campagne, donc quand moi je m'en vais bosser, je fais souvent un petit peu de borne. Et vous regardez, si je fais 3 pleins par mois, par exemple, c'est 75 euros. Mais à la fin de l'année, ça me fait plus de 800 balles. Quand j'étais encore en logement social, je payais de loyer avec ça. Donc oui, c'est important, oui, ça impacte les gens, et pas qu'un peu. Je ne sais pas comment on arrive à déterminer à l'heure actuelle que le pouvoir d'achat des Français aurait augmenté. C'est d'une bêtise, pas possible. Déjà, rien qu'avec ça... Ça vous remet tout en perspective, mais oui, c'est un sacré budget, c'est clairement ça. C'est à la fin de l'année, vous comptez, c'est un mois de loyer en fait que vous auriez pu payer avec cet argent et puis que vous dépensez en essence pour rien en fait.
Oui, mais ce qui est drôle, par exemple, en 1973, le prix du litre d'essence est d'1,69 francs. Donc c'est 25 centimes d'euros. Nous sommes d'accord. C'est en 73, ouais. Ça fait quasiment 50 ans. Bon. Mmh. Si vous mettez l'inflation, ce 25 centimes d'euros devient 1,60 € aujourd'hui. Ouais. C'est quasiment le prix de l'essence aujourd'hui. Je ne parle pas à Paris. À Paris, c'est plus cher. Donc tu t'aperçois qu'en 2021, avec mon exemple que je viens de citer, c'est quasiment le même prix que... en 1973. Et si tu fais la comparaison avec le SMIC, eh bien l'essence est encore moins chère si on se base sur le pouvoir d'achat d'une personne payée au SMIC. C'est fou. C'est ça qui est... En 73, le SMIC horaire brut était de 5,5... C'est formidable d'ailleurs. 5,43 francs, le SMIC horaire brut. Donc on est en gros à un peu moins d'un euro.
Là, j'ai dit 5. Bon. Vous regardez, en 63, c'était la génération
73,
de mes grands-parents.
73.
C'était la génération de mes grands-parents, on va dire, à ce moment-là, avec un SMIC. Vous aviez une famille, mais vous payez votre loyer de votre maison familiale, ça représentait 20% de votre salaire. Aujourd'hui, un SMIC, le loyer, ça vous représente plus dans les 30-40%.
Vous avez parfaitement raison. En fait, tout n'a pas augmenté. Je parlais l'autre jour des habits. Les habits, aujourd'hui, tu les payes sans doute moins cher que tu ne les payais il y a 40 ans, parce qu'il y a des marques low cost qui te permettent de t'habiller.
En Chine, à Taïwan, voilà. Tout bon. Ça, maintenant.
Mais en revanche, le budget qui a explosé, c'est le budget immobilier. Et comme c'est le budget le plus important, en plus qui te donne vraiment le sentiment de bien vivre ou pas. C'est-à-dire que si tu, dans les années 70, par exemple, un prof pouvait se payer un appartement dans Paris, un professeur d'histoire ou de français. C'est ça qui change tout. L'essence, à mon avis, c'est pas le vrai sujet. Mais l'immobilier est le vrai sujet.
Ah, mais il n'y a pas que l'immobilier. Vous regardez, c'est un tout. Le SMIC prend en moyenne 20 balles mensuelles tous les ans. En quoi une augmentation du carburant, comme on est en train de connaître là, une augmentation du gaz, une augmentation de l'électricité, sans compter l'inflation générale de tous les produits que vous achetez et l'augmentation de l'immobilier, mais jamais ça compense tout ça. Les gens vont se retrouver de plus en plus dans la merde et après on s'étonne qu'il y a des gilets jaunes. Donc
c'est vrai qu'il faut augmenter les salaires en France, vous avez parfaitement raison Léon. Il faut augmenter les salaires en France qui sont souvent trop bas et notamment les...
Il y a des dizaines de milliers de métiers qui n'ont pas été revalorisés depuis 50 ans. Les Français, tout ce qu'ils voient, c'est que nos députés s'augmentent leur budget au logement, que les grands riches se font des dividendes de plus en plus colossaux. Et derrière, moi, vous regardez mon corps de métier, il y a 50 ans, on gagnait quoi, 40, 50 balles sur sa journée. Aujourd'hui, on en gagne 70.
La solution, c'est pas augmenter d'ailleurs les salaires forcément, mais c'est dans les entreprises qui gagnent de l'argent que les salariés soient touchent quelque chose à travers ou la participation ou ce qu'on appelle le salaire dividende, qui est une idée que j'ai entendue ces derniers temps.
Ça serait vraiment bien.
Pourquoi votre société ne gagne pas d'argent ?
Ah non, parce que je suis intérimaire, chauffeur poids lourd. Donc moi, je fais partie de tout ce qui est des travailleurs temporaires qui ont déjà été mis dans le caca par la réforme du chômage qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps.
Léon, vous allez nous expliquer ça tout de suite après parce que ça m'intéresse. Mais pour le moment, comme il est 13h57, c'est l'heure du crime. Et traditionnellement, notre ami Jean-Alphonse, qui a passé un excellent week-end, j'imagine.
Parfait, comme d'habitude.
Va nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Pierre Dubois en 1993. Je suis pas sûr que vous vous souvenez de cette affaire.
Non.
C'est un psychologue scolaire accusé du meurtre de la principale du collège dans lequel il travaillait. C'est une histoire de haine entre ces deux personnes. Mais Dubois, cette particularité, c'est que c'est un homme qui va connaître plusieurs procès. Et vous ne verrez jamais un homme qui s'est aussi mal défendu de sa vie. Il est désagréable, il est hautain, il est agressif, il est dédaigneux. Et ça va lui coûter très cher. Donc on va voir, il va y avoir 3 procès pour juger Pierre Dubois en tout et pour tout. Et aujourd'hui encore, malgré cette enquête très longue, malgré ces procès qui se sont étendus dans le temps, on a toujours une interrogation sur la culpabilité ou non de Pierre Dubois. Est-ce que parce qu'on est désagréable, on est forcément coupable ? Ça peut être une question.
Il est 13h58.
Appelez-nous.
Un ange passe.
Appelez-nous.
Et lorsqu'on est désagréable, est-ce qu'on est forcément coupable ? À tout de suite !
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Lucas Hernandez a jusqu'au 28 octobre pour entrer en prison. La justice espagnole a ordonné, je vous le rappelle, son incarcération après le non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales en 2017. Le footballeur français s'est donc rendu au tribunal de Madrid ce matin. Il lui reste 10 jours pour entrer volontairement en prison, sauf si son recours est accepté, puisqu'il fait appel de cette décision. C'est en compagnie de son épouse que Jean Castex a été reçu par le pape François au Vatican ce matin. Durant cette audience privée, il a bien sûr été question des révélations retentissantes sur les abus sexuels dans l'Église catholique de France. Son discours consiste à dire que c'est courageux de la part de l'Église de France, justement. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre à la sortie de cet entretien. Un vol systématisé et institutionnalisé. Les associations venant en aide aux migrants à Calais dénoncent le système qui permet soi-disant aux personnes expulsées de récupérer leurs biens par la suite. horaires d'ouverture très restreints, l'obligation de se faire accompagner par une association autorisée, mais également le fait que lorsqu'un migrant parvient à accéder à la ressourcerie, il lui est très difficile de retrouver ses biens parmi plusieurs tonnes, je cite, d'autres amassées dans des conditions insalubres. Les associations disent ne plus cautionner ce dispositif. Une tradition, oui, mais à huis clos. La flamme olympique pour les Jeux Olympiques 2022 de Pékin a été allumée ce matin sur le site antique grec d'Olympie. Aucun public n'était présent à cause du Covid. Cela dit, des manifestants ont quand même tenté de déployer un drapeau tibétain. Ces derniers jours, les appels au boycott pour ces Jeux dans la capitale chinoise se sont multipliés. La météo. Cet après-midi, les nuages ne concernent que la façade atlantique avec un risque de pluie sur la Bretagne et le Cotentin. Demain matin, cette zone de moins bien va se déplacer et concerner le nord-est. Je vous donne le résultat des courses à Clairefontaine. Il fallait jouer le 2, le 7, le 4, le 10 et l'As. Le 2, le 7, le 4, 10 et l'As. Et l'on apprend à l'instant le décès de Colin Powell, secrétaire d'État sous George W. Bush. Il est décédé, Colin Powell, des suites du Covid. Il est 14h03 sur RTL.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On était avec Léon, et Léon c'est intéressant parce qu'il est chauffeur, et il y avait beaucoup de choses dans ce que vous disiez. On est parti du carburant, mais j'ai souhaité que vous restiez avec nous parce que vous disiez également que l'assurance chômage vous a mis en difficulté. Et je voudrais savoir concrètement comment et pourquoi ? Parce que ces cas-là m'intéressent beaucoup, pour tout vous dire.
Ah ben, je peux même vous expliquer comment la réforme de l'assurance chômage vient de mettre dans la merde des millions de Français. Parce qu'il n'y a pas que moi, en fait. Les intérimaires, il y a 1 million d'intérimaires, je crois, dans le pays. Mais vous avez tous ceux qui sont intermittents du spectacle, même s'ils ont un régime différent au niveau du chômage. Et vous avez aussi tous ceux qui sont dans la restauration. Je m'explique. Tout ce qui est des travailleurs temporaires. Prenez l'exemple de restaurants en Corse, par exemple. Est-ce qu'il va faire le même chiffre en été et en hiver ? Absolument pas, non ?
Non.
Donc forcément, qu'est-ce que va faire le gérant d'un restaurant
non,
corse,
mais vous,
par
vous,
exemple,
pardonnez-moi, vous avez dit « l'assurance chômage m'a mis, moi, chauffeur, en difficulté ». Et j'aime oui. bien expertiser, entre guillemets, les cas concrets. En quoi l'assurance chômage vous a mis, vous, en difficulté ? C'est ça que je veux savoir.
Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était l'exemple que je suis en train de vous prendre qui revient à peu près au même avec la Corse, c'est que pour des travailleurs temporaires comme moi, on se retrouve souvent dans des situations où on a des missions courtes mais où on travaille beaucoup plus que les autres et on a des périodes de transition entre les missions qui sont des périodes où on est obligé de se requinquer un petit peu et de d'aller se reposer.
Mais elles sont de combien de temps, ce que vous appelez ces missions pour se requinquer?
Regardez par exemple à l'heure actuelle, moi j'habite dans le Nord, on est en pleine saison betteravière. Donc alors il y a plein de chauffeurs poids lourds qui font énormément d'heures, beaucoup plus d'heures que la normale, pour faire la saison qui sera de octobre à janvier à peu
D'accord.
près.
D'accord, donc mais en janvier vous allez arrêter.
Janvier, vous allez vous retrouver dans une situation où vous faites quasiment deux fois plus d'heures qu'un contrat normal. Pendant 4 mois,
J'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe en janvier ? Donc vous arrêtez et vous allez avoir des indemnités moins grandes, moins importantes que celles que vous aviez avant, c'est ça ?
Ah oui, parce que la réforme du chômage stipule que maintenant, si vous avez des trous entre deux périodes d'activité, elles sont prises en compte pour le calcul de vos indemnités journalières. C'est-à-dire que si vous arrêtez de bosser entre deux missions, ça va être considéré dans le calcul de votre chômage. Et donc, les travailleurs temporaires comme moi, on va perdre 200-300 balles sur ce qu'on peut toucher en chômage entre deux missions.
Mais ça, c'est pour favoriser que vous ne preniez pas trop de temps, parce que vous dites requinquer. Si vous vous arrêtez 3 mois derrière une mission de 4 mois, c'est plus requinquer, vous voyez ce que je veux dire ? C'est profiter
peut-être du système.
C'est pour ça que j'aime bien essayer de comprendre.
J'entends bien, mais simplement... C'est comme je vous dis, c'est la même chose que quelqu'un qui va faire la plonge 7 jours sur 7 pendant 10 heures tous les jours pendant l'été jusque en saison en Corse. Vous sortez de là, vous êtes complètement épuisé. Il vous faut aller, on va dire, 2-3 semaines, le temps de vous reposer. Après, il faut le temps de retrouver un emploi. Il faut remettre la machine en marche. Et généralement, ça prend quelques semaines. Mais si à chaque fois que vous avez des trucs comme ça, que imaginons,
quand vous travaillez 2 mois, il faut 2 mois de vacances derrière.
Non, mais ça se passe pas comme ça.
C'est un peu ça que vous me dites.
Mais non,
pardonnez-moi.
C'est pas du tout ça.
Si vous faites la plonge pendant 8 jours, pendant 2 mois, il faut 2 mois pour récupérer.
Mais on travaille 2 fois plus que les autres aussi pendant qu'on est en activité. C'est des périodes de transition, le temps de retrouver quelque chose. Mmh. Et il y a des gens qui, dans ce pays, ne fonctionnent comme ça. Hein. Il y a des gens qui partent en saison d'hiver, ils se reposent pendant un mois et demi, et après ils repartent en saison d'été, mais ils travaillent plus que les autres. Donc,
écoutez Léon, peut-être que les auditeurs ont été convaincus et c'est ça qui importe finalement.
Il y a 6 millions de personnes qui travaillent comme ça dans ce pays, monsieur Pro, et je peux vous assurer qu'entre la restauration, justement, les intermittents du spectacle, tous les intérimaires, il y a énormément de personnes qui acceptent de faire beaucoup plus d'heures que la normale pendant des petites périodes distinctes et qui prennent un peu de récup avant de repartir faire des heures de fou.
Non, mais ça, j'entends, je peux comprendre qu'effectivement, après, c'est la durée qui est importante. Si tu t'arrêtes 3 mois, c'est pas la même chose que si tu t'arrêtes 15 jours. T'as beaucoup bossé pendant 2 mois, tu prends 15 jours derrière, je peux l'entendre. Mais t'as beaucoup bossé pendant 2 mois, tu prends 2 mois derrière, c'est plus difficile à comprendre.
Mais il faut être proportionné un petit peu. Tout l'inverse de notre gouvernement, il faut être proportionné dans son repos, il faut être proportionné dans sa manière de vivre.
En fait, il faudrait avoir vraiment des données très très précises. Et merci en tout cas Léon de ce témoignage. Et puis on va parler des toilettes. Toilettes non mixtes. Voilà un beau sujet. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h10, nous sommes avec David, avec ce sujet qui nous a intéressé ce matin, puisque dans une école de Gironde, et c'est une première, paraît-il, en France, des toilettes sont unisexes. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une première, parce que parfois il n'y a pas toujours l'espace pour avoir des toilettes garçons et filles séparées. On est avec David. Bonjour.
Oui. Qui est bonjour, psychologue. Pascal. Bonjour, c'est ça, psychologue, oui.
Vous êtes psychologue. Alors, quel est l'avis du psychologue que vous êtes?
Effectivement, c'est pas tout à fait une première en France, les toilettes non genrées. Il y a l'université de Tours, il me semble, qui a mis en place cette expérimentation il y a 2 ou 3 ans. Mmh. Et tout simplement, les toilettes publiques, il me semble, ne sont pas genrées. Mmh.
Je citais tout à l'heure un auditeur qui nous disait qu'en 59, dans son collège, les toilettes étaient mixtes.
Oui, vous venez dans mon cabinet, les toilettes sont mixtes.
Dans un cabinet, généralement, il n'y a qu'un toilette, peut-être. Ce qui se passe chez le dentiste, chez le médecin. C'est un appartement, j'imagine, dans lequel vous êtes.
C'est ça, un de mes deux cabinets est un appartement.
Appartement qui doit faire 50 ou 60 mètres carrés, j'imagine aussi.
Oui, 70, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc il y a un bureau, une salle d'attente et puis un seul toilette.
Voilà, grosso modo, voilà. c'est exactement ça.
Il y a ça dans les restaurants aussi, parfois, il n'y a qu'un toilette.
Hein. C'est plus rare quand même, dans les restaurants.
Dans les restaurants chics, il y a plusieurs toilettes, mais dans les petits restaurants ou dans les petits cafés, parfois, il n'y a qu'une toilette ou qu'un toilette.
Bon, dans ce cas-là, il faut demander une augmentation à votre patron sur RTL pour aller dans les restaurants chics.
Écoutez, j'y pense. Bon,
on plaisante. Mais si on revient au sujet, quel est mon avis? Mon avis, en soi, n'est pas fatalement contre ce genre de dispositif. La question, c'est de savoir, c'est pourquoi est-ce que le Conseil général de la Gironde a mis la pression au collège pour mettre en place ces toilettes non genrées dans ce collège, parce que le proviseur parle quand même d'une pression. Moi, je pense qu'à mon sens que les choses sont un petit peu faites à l'envers, dans le sens où j'aurais préféré qu'il y ait plutôt un travail en amont dans les classes avec les élèves avant de mettre en place directement les moyens concrets. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais votre sentiment, vous, c'est ça qui m'intéresse.
Moi, j'ai une crainte, pour être honnête. J'ai une crainte parce que sur les toilettes non genrées, si j'ai bien compris, c'est filles et garçons en gros vont dans les mêmes locaux pour faire leurs besoins au collège. C'est là où il y a toute la construction de l'identité qui se joue à ce niveau-là, sans compter ensuite les autres problématiques qui sont de plus en plus exponentielles, du type harcèlement, violence, moquerie, etc. Je sais qu'en cabinet, je reçois de plus en plus d'adolescents de niveau collège, de plus en plus jeunes aussi, qui sont victimes de harcèlement, de violence, mais pour toute raison, que ce soit pour leur genre, pour leur orientation, pour leur croyance, pour leur couleur, pour n'importe quoi. Et moi, j'ai peur que ça vienne justement amplifié un peu ce sentiment d'anxiété vis-à-vis de l'image de l'établissement scolaire et développer ainsi des phobies scolaires qui normalement ne devraient pas avoir lieu d'être. Mais
c'est le psychologue qui a peur peut-être, et je peux l'entendre d'ailleurs, vous avez raison, c'est intéressant de l'entendre.
C'est ma crainte.
En même temps, c'est vrai que j'allais dire, c'est la vie aussi des plus jeunes, et que le harcèlement, je l'espère en tout cas, est un acte minoritaire.
Oui, ça reste encore un acte, heureusement, ça reste encore un acte minoritaire, mais qui gagne de plus en plus alors, est-ce que c'est dans la réalité des faits ou est-ce que c'est dans la parole qui se libère? Allez savoir, mais oui, effectivement, c'est des problématiques qu'on reçoit de plus en plus dans nos cabinets, cette problématique-là, en plus des problématiques de questions d'identité aussi.
Là, vous recevez beaucoup dans votre cabinet des jeunes gens, par exemple, qui sont dans une quête d'identité, et c'est des demandes, ou en tout cas, c'est des témoignages plus fréquents qu'il y a 10, 20 ou 30 ans?
Alors oui, par rapport à ce qui se disait avant, oui, c'est des choses qui se développent de plus en plus. Là, actuellement, j'ai en suivi, j'ai 4 adolescents niveau collège en parcours de transition. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils vont quitter une identité pour retrouver une autre.
Voilà, c'est ça.
Et c'est dans quel sens? C'est garçon-fille ou fille-garçon?
J'ai les deux.
Mais quel âge ils ont?
Le plus jeune ou la plus jeune que j'ai a 12-13 ans.
Mais qu'est-ce... Alors ça, c'est... Vous les dissuadez? Vous leur dites d'attendre un peu ou vous les accompagnez?
Non, je suis pas du tout là pour dissuader ou porter un jugement ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, je change de métier tout de suite. Mais je suis plus là pour les accompagner, oui, et pour aider à leur faire prendre conscience aussi de leur choix, de leur geste. Mais pas du tout à les dissuader, pas dans le but de dissuader, absolument pas.
Non, mais quand je dis dissuader, c'est que 12 ans, 13 ans, c'est très jeune et peut-être... sont-ils, encore trop jeunes pour faire un choix définitif de ce type?
Après, les mentalités évoluent, les générations aussi. Ils sont pas du tout... non, je pense qu'ils peuvent, avoir conscience de leur identité à 12-13 ans. En tout cas, ça me choque beaucoup moins que l'histoire du petit Lilian, 7 ans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Oui, bien sûr.
Mais bon, c'est pas là la question. La question sur les toilettes genrées, je suis pas fatalement contre, mais j'ai quand même des craintes, des inquiétudes qui, sans travail en amont, de préparation, de prévention, et d'explication. Tout changement ne se fait pas sans accompagnement, sans explication. J'ai un petit peu peur des conséquences.
Eh bien, merci vraiment, merci beaucoup, monsieur David, et à très vite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous allons peut-être terminer avec Mélanie, qui habite Nantes et qui voulait intervenir sur ce sujet des toilettes non mixtes. Bonjour Mélanie.
Bonjour Pascal.
Dans une école de Bordeaux, qu'en pensez-vous?
Eh bien, ce que j'en pense, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt positif, parce qu'effectivement, je me dis, pour des enfants qui ont des soucis de genre, qui ne sont pas dans le bon corps, un simple geste normal du quotidien qui est aller aux toilettes peut devenir certainement très compliqué, le fait de rentrer dans des toilettes qui ne leur correspondent pas. Donc, dans ce sens-là...
Ah oui, vous le voyez c'est... comme ça. Ah oui, moi, je ne l'avais même pas imaginé comme ça. C'est-à-dire que finalement, c'est ne pas dire à un garçon qu'il est un garçon ou une fille qui est une fille.
Voilà. Bah, moi, c'est comme ça que je le...
Je pense que si ça se trouve, c'est vous qui avez raison.
Peut-être, je sais pas. Mais c'est... Alors, je me dis, dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Après, je me dis, il ne faut pas qu'à l'inverse, ça devienne un problème pour les autres enfants, qui malgré tout restent la majorité des enfants quand même. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Parce que, bon, le collège, je parle en tant que femme, pour les jeunes filles, c'est aussi un âge, l'arrivée des premières règles. Donc, aller aux toilettes, c'est aussi ça. Et il ne faudrait pas que le fait d'avoir des toilettes mixtes devienne un problème pour elles. Alors, je pense que dans tout ça, en fait, le vrai sujet, c'est... peut-être, éduquons nos enfants aussi à se respecter les uns les autres, quoi. Et ce qu'est l'autre, que ce soit fille, garçon ou non-genré. Mais voilà. Mais dans le sens, moi, pour des enfants qui ont un souci avec leur identité, je pense que
un truc un peu anodin comme des toilettes mixtes peut beaucoup les aider au quotidien, oui.
Non, mais c'est ce que vous dites est pertinent et effectivement et peut-être une manière nouvelle d'aborder les choses. Je n'avais pas imaginé du tout de cette façon-là, mais c'est vrai qu'on est en 2022. Même en 2021, donc n'allons pas trop vite, mais que le monde change. Donc pourquoi pas. Merci Mélanie, merci. Il est 14h22 précisément, et ça va être le débrief de Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Les maisons individuelles sont, je cite, un non-sens écologique, économique et social. Les propos sont signés de la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon.
Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse.
Et Cédric a été le premier à réagir.
Eh ben, qu'est-ce que j'en pense? C'est d'une connerie abyssale. Dans son idée à elle, finalement, on arrête de construire des pavillons, on construit des immeubles, il n'y a pas de problème, donc on déforeste. Donc construire des immeubles, c'est du béton, donc ça demande beaucoup d'eau, donc ça demande des parkings. Donc c'est très, très écologique, hein, tout ça. Dire une phrase comme ça, quand on pense que, pour beaucoup, c'est l'aboutissement d'une vie d'avoir sa maison, pardon, mais c'est un peu maladroit quand même.
Sandra est agent immobilier, les propos de la ministre l'ont fait bondir.
J'ai une clientèle justement de bobos, justement de gens parisiens qui cherchent vraiment à quitter Paris pour une maison individuelle. Donc je sais pas de quoi elle parle, peut-être effectivement qu'elle est complètement déconnectée. Donc je suis désolée, mais la maison, le modèle pavillon avec un bout de jardin, avec un lopin de terre, c'est recherché.
Alors faites entrer quand même la défense tout de même avec Alain.
La première ressource de disparition des terres agricoles, ce sont les maisons individuelles. Les maisons individuelles grignotent du foncier. Alors c'est pas la peine de s'offusquer d'avoir Bolsonaro qui brûle son Amazonie pour nous brûler nos terres agricoles, les bétonner.
Mais pourquoi tous ces propos de la ministre sur la maison individuelle? On est bien dans un pavillon avec un jardin, n'est-ce pas?
Alors j'ai sous les yeux la déclaration de situation patrimoniale modificative d'Emmanuelle Wargon. Alors c'est assez drôle parce qu'elle a une maison individuelle dans sa déclaration de patrimoine qu'elle a achetée en 2006.
Ah bah, même la ministre a une maison individuelle et pourtant, je rappelle ses propos.
Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse.
Ah, et j'imagine que derrière ce sujet vous énerve, Pascal.
Prendre sa voiture, c'est un nom. Oui, mais moi je veux bien qu'on arrête de vivre. Vivre, c'est un non-sens écologique.
Et je sens qu'une love story existe entre la ministre et vous. Que disiez-vous, Pascal, il y a un an sur CNews?
Moi, si j'étais Emmanuel Macron, je demanderais à Emmanuel Wargon de plus parler. Parce qu'à chaque fois qu'elle parle, elle nie le réel.
Alors sinon, nous avons pris des nouvelles de Monsieur Boubouk.
Vous nous aviez annoncé vendredi un week-end avec quelqu'un, je crois, de la maison d'RTL.
Exactement, de la rédaction.
Voilà, et alors évidemment, puisque vous nous en avez parlé, le public
vous êtes curieux quand même, hein,
et veut des informations. Bah, est-ce que écoutez, tout s'est bien passé?
Bah, il s'avère que la personne n'est pas venue.
Mais qui a osé faire ça de Monsieur Boubouk? Alors après sa peur de conduire sur autoroute, Monsieur Boubouk a fait une autre révélation.
En Savoie, j'ai une voiture.
En Savoie.
Voilà.
Elle est en Savoie.
Elle reste en Savoie. D'accord. J'ai trop peur de conduire à Paris.
Alors, Monsieur Boubouk, doit-il garder sa voiture en Savoie? Doit-il continuer de conduire, Jean-Alphonse Richard?
Peut-être une question.
Merci, Jean-Alphonse. Parlons argent. Qui a gagné les 220 millions d'euros? Oui, qui? Enlevons quelques suspects, grands joueurs.
Bon, l'euro million, on en a beaucoup parlé
oui,
vendredi.
Bah,
220 millions. Non, c'est pas moi, c'est pas vous non plus, j'imagine.
Bah, pourquoi?
Bon, vous seriez peut-être pas là. Enfin bon,
avec
je sais pas.
Plaisir.
Bon.
Avec plaisir. Est-ce que l'on aime? Ce sont aussi les passages d'antenne entre Julien Courbet et vous, Pascal, avec Amandine. On sent que l'équipe de Ça peut vous arriver a une préférence.
Dans quelques instants, c'est Amandine Bego. Ah. Et mais il y aura aussi Pascal Pro.
Déception. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui résume, Pascal, votre relation avec Emmanuelle Wargon.
On était tous les deux destinés à voir nos chemins.
Bah, dites que Guy Marchand, il n'aime pas du tout cette chanson. Parce qu'on lui passe régulièrement et c'est vrai qu'il préfère d'autres chansons. C'est un merveilleux chanteur, oui. Guy Marchand.
Et musicien.
Et merveilleux comédien. Et c'est le dernier vivant d'un film extraordinaire qui s'appelle Garde à vue, puisque Michel Serrault est décédé et Lino Ventura est décédé.
Ouais,
et il dit souvent, je suis le dernier de ce film. Ça n'a absolument aucun rapport avec ce dont on va parler maintenant.
Non, et c'est une destinée aussi. C'est une destinée.
Quel talent. C'est
une destinée criminelle, mais c'est une destinée, la destinée de Pierre Dubois. Trois procès pour savoir s'il a tué, oui ou non, la principale du collège dans lequel il travaillait. Peut-être une histoire de sale gueule d'ailleurs, on va voir ça.
à tout de suite et rendez-vous demain en ce qui nous concerne.